France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Carlos Ghosn, l'ancien président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, a été de nouveau arrêté cette nuit au Japon. Cette fois, l'affaire concerne des soupçons d'abus de confiance aggravés. Dans un communiqué, Carlos Ghosn rejette ces nouvelles accusations portées par le parquet de Tokyo. Il qualifie d'ailleurs son arrestation de révoltante et arbitraire. Il doit être interrogé sur des paiements suspects effectués à un partenaire commercial de Nissan à Oman, dans la péninsule arabique. Cette nouvelle arrestation intervient au lendemain d'un message publié sur Twitter dans lequel Carlos Ghosn annonçait la tenue d'une conférence de presse dans une semaine. Il promet de dire la vérité sur les événements. Une arrestation qui intervient aussi au lendemain de la décision du conseil d'administration de Renault. Le groupe automobile ne veut pas payer à Carlos Ghosn sa retraite chapeau qui aurait pu s'élever à 765 000 euros par an. Cela se complique encore dans le feuilleton du Brexit. Un secrétaire d'État britannique a démissionné hier. Il était opposé à un nouveau report de la date de sortie de l'Union européenne. C'est pourtant bien ce que veut Theresa May. La première ministre britannique a même dû tendre la main à son adversaire Jeremy Corbyn et demander un peu plus de temps. Les discussions avancent. Voilà ce que disent Jeremy Corbyn et Theresa May. Les évêques de France ont élu hier à leur tête un homme jeune, intransigeant et en pointe sur la question des abus sexuels. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, anti-omerta, tout juste nommé archevêque de Reims, devient donc le nouveau président de la Conférence des évêques de France. Son mandat doit débuter en juillet prochain. La France s'apprête à interdire des modèles très répandus de prothèses mammaires. C'est une information de la cellule investigation de Radio France avec le consortium international des journalistes d'investigation. Cette décision d'interdire certaines prothèses mammaires vient de la police sanitaire. Elle est sans précédent. 15 modèles d'implants soupçonnés de cause de cancer vont être retirés du marché. Et puis notez cette grève des enseignants ce jeudi contre la loi Blanquer. Elle s'annonce très suivie dans le primaire. À Paris, la moitié des écoles resteront ainsi fermées. Grève à l'appel du FSU de Force ouvrière et de Sud.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Et si tout se jouait le 26 mai ? Europe, le moment de vérité. L'Europe est-elle un mythe, un rêve ou un cauchemar démocratique ? Quelles frontières ? À qui profite l'Europe ? À moins d'un mois d'élections déterminantes, France Culture sonde les enjeux qui traversent le continent au cours de 4 tables rondes et d'un dialogue de clôture animé par les producteurs de la chaîne. Venez nombreux, samedi 13 avril dès 10h dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Un événement en partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Cette semaine, sur France Culture, on revient sur le génocide des Tutsis au Rwanda, 25 ans après les faits. Des émissions comme Culture Monde, la série documentaire et d'autres marquent cet anniversaire et s'interrogent sur les circonstances de ce génocide et ses conséquences. Autre question, comment s'est transmise la mémoire du génocide qui a fait près de 800 000 morts à la jeunesse rwandaise qui compose l'essentiel de la population de ce pays ? Le chanteur Corneille, qui a assisté à l'âge de 17 ans au massacre de sa famille, est aujourd'hui père à son tour. L'artiste, établi au Québec, est de passage à Paris cette semaine à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Et il est mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi. Musique.
Je ne suis qu'un homme, donc j'ai la phobie de l'ombre. Je m'indigne de tout et peu de choses sont de ma faute. Le problème, c'est les autres. Et pendant que ma sagesse résonne, un enfant meurt dans les mines du Congo. Sur mon iPhone, je raconte le monde. Yeah. Mes
mes amis, oh, face au dilemme de mon ego, je n'ai pour réponse que je t'aime.
On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant.
Je fais comme toi, tu fais comme moi.
On est ce qu'on nous donne et le risque qu'on apprend. On est fait de prières et de nos voeux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps.
Mais qui est comme toi, qui est comme moi? Personne.
Bonjour Corneille.
Bonjour.
S'il fallait parler de votre boîte à outils, vous utilisez quoi quand vous voulez composer un morceau?
C'est beaucoup d'imagination et des souvenirs. En fait, je me rends compte avec le temps que à force de faire des albums, c'était peut-être moins le cas pour... moins pour ce qui a trait au texte, mais en tout cas pour la composition musicale, c'est-à-dire l'harmonie, la suite d'accords, la mélodie même. Finalement, on emprunte forcément au passé. Je réarrange mes souvenirs musicaux parce que j'ai et c'est ce qui explique peut-être aussi pour la raison pour laquelle on trouve tellement de lieux communs entre des choses qui se font aujourd'hui dans la musique pop d'aujourd'hui et des choses qui sont faites il y a 20 ans et 20 ans auparavant. On est forcément dans des répétitions réorchestrées et on se passe les outils justement au fur et à mesure qu'on crée. Mais pour ce qui est des textes, ma boîte à outils, c'est mon vécu en fait. Il y a que ça.
Ça part d'un sentiment, d'une envie d'aborder un sujet, de revenir sur quelque chose qui vous a marqué, qui ne passe pas, qui vous plaît, qui vous déplaît.
En fait, je me rends compte aujourd'hui que souvent, le texte part de l'envie d'exprimer quelque chose que je n'ai pas eu le courage ou l'habileté ou l'esprit de faire au moment où je l'ai ressenti.
Mais le fait, Corneille, que votre album, là, le dernier album qui vient de sortir, Parce qu'on aime, et avec ce titre, Parce qu'on aime, coïncide avec les 25 ans du génocide au Rwanda, donc une histoire qui vous a marqué, puisque vous l'avez vécu profondément. Le fait que cette histoire revienne, que ce soit par les médias, comment vous le vivez?
C'est normal que cette histoire revienne. C'est normal que cette histoire me revienne, parce qu'on n'est pas plusieurs déjà. On n'est pas plusieurs rescapés de ce génocide à avoir l'intérêt des médias, donc forcément faut que ça revienne. Ce serait un non-sens d'être au mois d'avril, par exemple. On s'approche du 6 avril. Voilà, donc ce serait un non-sens de ne pas me poser une question sur le Rwanda, sur le génocide, sur cette commémoration, sur... Au contraire, je pense que aujourd'hui, je pense que je le vivrai mal parce que on nous a déjà ignoré une fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaque 6 avril est une occasion d'en reparler, et reparler de ces choses-là, c'est une tentative de réparer les choses aussi.
Est-ce qu'il y a un lien entre cet album, par exemple, et votre vécu, ce que vous avez vécu, y compris avec le génocide rwandais?
Pas directement. C'est le seul et premier album où il n'est pas question du Rwanda. Pas comme ça, en tout cas. Pas du génocide, pas du... Il est question d'un nouveau départ.
Mais n'est-ce pas lié, justement?
Bah, bien sûr. Implicitement. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais de toute façon, je serai toujours lié à cette histoire et à ce pays. Ça m'a construit. Ça a fait qui je suis, ça explique qui je suis. Et je pense que ça ne cessera pas. L'amour dont je parle dans cet album est d'autant plus significatif, ou a d'autant plus de force, parce que j'ai l'histoire que j'ai, je pense. En tout cas, pour moi, l'amour signifie encore plus pour moi parce que j'ai de réelles raisons de ne pas éprouver la moitié de l'amour que j'éprouve pour l'autre. Là, en l'occurrence, pour cet album, c'est l'amour entre mon épouse et moi. Mais cet amour ne serait pas possible si je ne portais pas en moi un amour intrinsèque pour l'autre. Je porte en moi beaucoup d'amour pour l'autre. J'ai envie d'aimer l'autre. J'ai envie d'accepter l'autre. Et je ne pense que ça n'aurait pas la même portée sans cet horrible génocide. Je pense. Je suis même pas sûr que j'en sentirais le. Je ne sais pas si je serais en mesure de reconnaître la vraie valeur de cet amour dont je parle, même si c'est un amour de couple qui peut sembler banal.
Et comment cette mémoire vous est présente dans votre vie, Corneille?
Ah ben cette mémoire, elle s'est matérialisée sur les visages de mes enfants. C'est ça la nouveauté, c'est que cette mémoire s'est matérialisée sur les traits de ma famille disparue que je retrouve sur mes enfants. Donc ça m'a forcé à renouer avec mon passé, à me réconcilier avec mon passé, le réinviter dans mon quotidien, puisqu'il était là. Je pense que j'aurais pu rester coupé du Rwanda, et justement sans mes enfants, peut-être que un 6 avril, je vous aurais dit, non, là, le Rwanda, franchement, ça me prend la tête, ça fait tellement longtemps que j'en parle, j'ai envie de passer à autre chose. J'avais besoin de me détacher du Rwanda avant les enfants. C'était un besoin. Avec l'arrivée des enfants, j'ai besoin de renouer avec le Rwanda.
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui avaient 17 ans, comme vous, Corneille, à l'époque des massacres, du génocide, sont aujourd'hui des parents, des pères, des mères, et que se pose la question de la transmission, y compris de la transmission de cette histoire-là ?
Absolument. J'ai aujourd'hui l'âge que mon père avait quand il a disparu. Mon père est mort à 42 ans, j'ai 42 ans aujourd'hui. Donc oui, la question de la transmission se pose. Plus que ça, elle est primordiale. Pour continuer, je ne conçois pas un avenir pour mes enfants où le Rwanda ne l'aurait pas expliqué, où le Rwanda ne l'aurait pas raconté. Et oui, il y a le génocide, mais il y a le reste aussi. Il y a ce qu'il y avait avant, il y a ce qu'il y a eu après. Il y a un pays, il y a un peuple, il y a une histoire, une langue, des traditions. Je ne conçois pas un avenir où mes enfants soient complètement déconnectés de la terre sur laquelle leur propre père a été enfant. Pour moi, il faut voilà, c'est ouais, je pense qu'il y a des cordes qu'on peut pas couper, je pense qu'il y a des liens qui ne se coupent pas. On a beau vouloir s'en détacher, puis parfois il faut le faire parce que c'est une manière de survivre. Mais à un moment donné, on revient à la source.
Comment transmettre cette histoire, Corneille? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez? Est-ce que ces questions sont obsédantes ou pas du tout? Parce que vous êtes un artiste, vous arrivez à vous exprimer par différentes manières, en passant par la musique, par la poésie. Je rappelle que quand même, cette histoire-là, vous avez réussi à lui donner une place dans votre vie artistique, dès votre premier album.
Parce que c'était obsédant, justement. C'est parce que c'était à ce point obsédant que je lui ai fait beaucoup de place. Et ça n'a pas cessé de m'obséder. Hein. Ce retour au Rwanda, c'est un truc qui m'obsède aussi. Parce que c'est une pièce manquante de ma nouvelle identité. Je suis même pas sûr que ça s'explique rationnellement. Hein. Il y a des jours où je me lève et si je vois une nouvelle par rapport au Rwanda, je vais me jeter dessus. Et si c'est une bonne nouvelle, je vais être heureux, alors que je ne suis pas. Plus qu'une bonne nouvelle qui provient de la Russie ou du Chili. Tu vois ce que je veux dire?
Mais concernant le génocide, est-ce que vous avez l'impression que vous connaissez toute l'histoire, ou que l'histoire continue à s'écrire, ou qu'il y a quelque chose qui vous manque?
Mais je ne peux pas connaître toute l'histoire. De toute façon, c'est la trahison de l'histoire. C'est la trahison de l'histoire, c'est que premièrement, elle n'est vue et racontée que par le prisme de l'individu qui la voit et qui la raconte. Et tous les événements étant sujets à interprétation, entre le moment où l'histoire est en train de se passer Et le moment où on se donne le droit, ou le moment où on est enfin prêt à la rencontrer, on a déjà des partis pris. On a passé du temps à forger son parti pris, à se dire de quel côté on est ou de quel côté on veut être. Et forcément, ça fait une interprétation biaisée de cette histoire-là. Donc au moment où on l'écrit, on est en train déjà de la réécrire.
Est-ce qu'elle a évolué ces 25 dernières années, depuis vos 17 ans jusqu'à aujourd'hui ?
L'histoire elle-même n'a pas évolué, c'est mon rapport à elle qui a évolué. J'ai moins de colère, plus de compréhension, je suis moins catégorique, j'ai moins de certitude, en fait. Moins de certitude sur les intentions, les motivations des uns et des autres. Ouais, il y a un lâcher-prise, quoi. Il y a un lâcher-prise. L'idée de raconter l'histoire avec un grand H, de toute façon, vient du fait qu'on a envie de contrôler celle-ci. On a envie de contrôler l'histoire. On a envie qu'il y ait eu une version de cette histoire. Et donc, on s'assure qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà, c'est ça. Alors que ce n'est jamais ça. Et moi, je lâche prise. J'essaie de lâcher prise. Je sais que j'ai perdu ma famille, je sais dans quelles circonstances je les ai perdus. Le reste, je dois trouver l'humilité de dire, parce qu'il faut chercher un responsable, évidemment. Faut toujours chercher un responsable. D'ailleurs, dans la justice, c'est toujours le grand problème, c'est est-ce que si tu punis l'agresseur par la peine de mort, est-ce que ça t'apaise pour autant ? C'est toujours ça. Et je me dis que non. Moi, ce qui m'apaiserait davantage, c'est de moi déjà de tremper avec mon rapport avec ce pays, non pas d'oublier, mais d'accepter les horreurs que j'y ai vues comme étant des choses qui appartiennent à un passé. Et qu'il y a un nouveau Rwanda qui existe aujourd'hui, et que voilà, et que ça m'apaise assez pour vouloir y retourner.
C'est le cas, vous y retournez de temps en temps ?
Non, j'y suis pas retourné encore. Mais j'aimerais bien un jour. Et puis ensuite, le plus important, c'est que mon pays aille bien. C'est que j'ai l'impression que mon pays va bien et que le peuple rwandais est réconcilié. Ça, ce serait. L'ultime.
Ça l'est ? Vous pensez qu'on est passé à cette réconciliation tout en reconnaissant le génocide ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut se réconcilier aussi rapidement après 1 million de morts. En fait, j'en parle maintenant, puis je me dis que je suis peut-être dans le. C'est peut-être. C'est un peu utopique. C'est beaucoup de gens qui ont transmis à beaucoup de gens énormément de traumas. Je pense que ça prend plus qu'une génération. Peut-être même deux. Mais c'est mon rêve ultime.
Pourtant, Corneille, votre histoire, ce drame que vous avez vécu, c'est aussi une manière de raconter à vos enfants ce qu'est l'amour, de rappeler que vos parents se sont aimés alors qu'ils étaient de deux tribus qui se sont fait une guerre atroce, une guerre incroyable, un massacre. Ça devient presque le récit du monde, au-delà même de ce cas particulier du Rwanda.
Ouais, puis même ça devient l'histoire d'un espoir, en fait. Parce que c'est on parle beaucoup d'immigration, la notion de l'étranger qui revient, voilà, ça c'est un petit peu le thème à la mode, mais finalement que c'est ça, hein, l'amour, encore une fois. Peut-être que l'amour va finir par confondre l'homme, parce que s'il y a une chose qu'on ne choisit pas, contrairement à ce qu'on pense, je pense moi, c'est la personne de laquelle on tombe amoureux. On peut très bien s'imaginer deux personnes qui appartenant à deux camps opposés tomber amoureux. Et confondre tout leur entourage, c'est déjà arrivé, ça arrive tous les jours. Mais qu'est-ce qui naît de ça ? Si les choses sont bien faites, il naît un nouveau genre d'êtres humains qui sont faits de plein de choses comme ça, qui sont censés être en opposition et qui finalement sont forcés de coexister. C'est peut-être ça l'espoir, c'est peut-être ça l'avenir, je l'espère en tout cas. Mais par rapport au Rwanda et ma famille, c'est au-delà de deux ethnies et tout ça, c'est aussi le fait que l'amour peut être tout ce dont un être humain a besoin pour affronter la vie, pour faire face à la vie. Parce que c'est ça, la fameuse boîte à outils, justement, elle n'est jamais assez grande, elle n'est jamais assez remplie. Un cancer, un accident de voiture, des problèmes financiers parce qu'il y a eu une crise, je veux dire, tout ce qu'on ne contrôle pas est inévitable, forcément. Alors comment on fait ? Ben, l'amour, ça peut être la défense ultime.
Il était une fois, on a déjà eu le ventre plein d'avenir, il n'y a pas si longtemps que ça. On comptait les jours de nos soupirs. On nous a laissés pour compteur. On a payé cher, on a payé cher de notre innocence. On nous a couverts de honte. Mais prends garde à celui, prends garde à celui qui rêve en silence. Regarde-nous. Et tout ce qu'on peut faire avec rien du tout, on est toujours debout. On a inventé l'amour en dépit des coups. Génération papa outé, génération maman désolée.
Regarde-nous, extrait de son dernier album Parce qu'on aime. Merci Corneille, merci d'être venu, merci pour votre témoignage. D'autres témoignages sur France Culture ce dimanche dans l'émission L'Expérience de 23h à minuit. D'autres jeunes qui avaient le même âge que vous pendant le génocide des Tutsis et qui aujourd'hui sont parents viendront témoigner au micro donc de L'Expérience ce dimanche et juste avant, toujours donc le dimanche soir, dans le cadre de Théâtre et Compagnie, on fera entendre le texte Dans le nu de la vie, récit des marées rwandais de Jean Hatzfeld. Bonjour Oriane Jeancourt du magazine Transfuge.
Bonjour Toufik.
Alors, avant de parler des coups de cœur de votre mensuel, on va rester sur cette semaine spéciale sur France Culture pour marquer le 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Et vous avez lu un livre, celui de Johann Smadja, « J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi ». Ça vient de paraître chez Belfond.
Oui, absolument, et c'est un premier roman qui m'a beaucoup marqué. Et en effet, je me suis dit que c'était une bonne idée d'en parler, comme vous faites cette semaine spéciale. Alors, c'est l'histoire de deux femmes. C'est extrêmement bien construit, puisqu'il y a d'une part une journaliste, Sacha, qui se rend en Afrique du Sud, et puis peu à peu au Rwanda, puisqu'on est en 94, donc au moment du début du génocide. Et puis une autre femme, Rose, qui elle est Tutsi, muette, mère d'un petit garçon, on va la découvrir par des lettres, va subir le génocide. Et donc c'est entre les voix de ces deux femmes, et entre elles deux il y a un homme qui est le mari de Rose, un médecin, c'est à travers les voix de ces deux femmes qu'on va découvrir petit à petit l'horreur en train de se mettre en place et la mécanique du génocide. Et c'est ça qui m'a profondément frappée dans ce roman, et c'est peut-être ça d'ailleurs que peut le roman au-delà du documentaire. Eh bien, c'est de montrer le rythme de l'horreur qui arrive. Et vous voyez, au début du livre, on est dans quelque chose de très doux, de très tranquille. La mère, quand elle parle de son quotidien, c'est un quotidien avec les paysages du Rwanda, très doux, très avec la cuisine, enfin, le bonheur quotidien, et puis peu à peu l'horreur qui surgit s'installe. C'est vraiment le rythme que réussit à faire entendre Smadja du côté de la journaliste aussi. Au début elle ne se doute de rien, et puis petit à petit dans son enquête elle va aller de catastrophe en catastrophe, d'horreur en horreur, et découvrir beaucoup de choses. Évidemment, le le génocide en marche, mais aussi le rôle très très étrange, très ambigu, très passif des casques bleus, il faut bien le dire. Aussi l'opération turquoise et toute son ambiguïté, hein, dont qu'on ne cesse d'interroger et de réanalyser aujourd'hui. Et puis aussi le rôle de la Croix-Rouge, qui lui est assez héroïque. Hein. La Croix-Rouge a joué un rôle tout à fait héroïque pendant le génocide, et c'était important aussi de le dire. Je crois que Johann Smadja connaît bien ça, parce qu'il a travaillé dans l'humanitaire, et ça se voit.
Et je rappelle le titre de cet ouvrage édité chez Belfond, J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi, recommandé par France Culture et par Transfuge. D'autres coups de cœur, Oriane Jeancourt?
Oui, tout à fait, un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle I am, I am, I am, de Maggie O'Farrell. Je n'ose vous traduire le titre, mais cette idée...
Toujours chez Belfond d'ailleurs.
Toujours chez Belfond, oui, alors c'est un hasard, hein. Mais voilà, Maggie O'Farrell, je ne la connaissais pas, elle a pourtant écrit plusieurs romans de facture très très romanesque, assez classique, mais alors là, on n'est pas du tout dans un roman, on est dans des mémoires, donc on est même au-delà de l'autofiction, c'est puisque cette femme jeune, je peux le dire, elle a 45 ans, eh bien, va retracer sa vie, différents moments de sa vie, à travers ce qu'elle appelle ses near-death experiences, c'est-à-dire ses rencontres avec la mort. Et alors, ce sont des rencontres qu'elle fait très jeune, puisque très jeune, elle est malade, elle a 9 ans, elle est hospitalisée, on lui dit qu'elle n'a plus que quelques semaines à vivre, donc elle raconte ça. Et puis, elle raconte, par exemple, quand elle a 18 ans, qu'elle se promène dans une montagne, qu'elle rencontre un homme, elle voit que cet homme est extrêmement étrange, il joue avec ses lunettes, et le lendemain elle apprendra que cet homme a assassiné une autre jeune fille. Il y a aussi un moment où elle est en Afrique, parce qu'elle va beaucoup voyager, et elle coule au milieu, en pleine mer, on se demande comment elle va s'en sortir, et à chaque fois elle s'en sort in extremis.
Donc, les petits rendez-vous ratés avec la mort.
Voilà, c'est un peu rendez-vous à Samara, mais donc, sauf qu'elle, elle évite la mort qui l'attend. Donc au-delà évidemment de l'aspect très, très romanesque de ces différents moments de vie, c'est toute une réflexion sur comment est-ce qu'on peut dialoguer avec la mort très jeune.
I am, I am, I am de Maggie O'Farrell, c'est édité chez Belfond. Un autre coup de cœur Transfuge qui consacre sa une à un réalisateur que nous aimons beaucoup ici à France Culture, même si votre collègue et néanmoins ami et partenaire Michel Simon était très très réservé concernant son dernier film.
Il en faut bien un.
Bon.
Oui, Nadav Lapid.
Puisqu'il s'agit de Nadav Lapid, le réalisateur absolument, israélien.
Absolument, qui a eu donc l'Ours d'Or
à
Berlin cette année pour Synonyme, et que nous aimions déjà beaucoup, puisque nous avions beaucoup mis en avant son film précédent, L'Institutrice. Et donc ce jeune Nadav Lapid, eh bien là, avec cet Ours d'Or, nous plonge entre la France et Israël, puisque c'est le récit d'un jeune Israélien qui va décider de vivre en France par passion pour la France, mais aussi par curiosité pour ce pays. Il va être plus ou moins bien accueilli par un couple de jeunes bourgeois. Voilà, ça va être ce dialogue-là, cette aventure-là, une réflexion très, très sensuelle, mais aussi autour du langage, puisque le film s'appelle Synonyme, et ce n'est pas pour rien. Il nous a donné un long entretien où il parle de cinéma, il parle de sa vie, il parle d'Israël. Il a des positions radicales, même assez tranchées, sur la politique israélienne aujourd'hui. Mais tout ça avec une intelligence, une liberté. On fait aussi le portrait de ses acteurs. Enfin, tout ça est assez passionnant.
Et c'est à retrouver dans le dernier numéro de Transfuge, le numéro d'avril. Merci, Oriane Jeancourt, d'être passé.
Merci à vous.
On peut réécouter ce réveil culturel en passant par la page franceculture.fr, à la coordination Corinne Amard, aidée par Maël Ray, à la réalisation Vincent Abouchard, assisté à la prise de son par Souad Corsa. Le réveil culturel, c'est très tôt le matin à la radio, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, si vous êtes abonné au podcast de l'émission. À demain.
Sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque soir sur France Culture à 22h15, Matière à penser. Cette semaine en compagnie d'Antoine Garapon.
Dans un monde en pleine transformation, inquiet et violent, le droit est un repère, c'est une boussole qui nous oriente. Il est aussi une matière à penser. C'est ce que j'essaierai d'approfondir avec vous tous les soirs.
Ils œuvrent dans l'ombre, qu'il s'agisse du renseignement militaire ou civil, de la lutte contre le terrorisme ou la criminalité financière, des écoutes ou du fichage informatique. Agents secrets et services du renseignement, matière à penser cette semaine à 22h15 et sur franceculture.fr.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent En lisant, en écrivant, une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Mardi 9 avril à 18h30, retrouvez Mario de Muraille, grande figure de la littérature pour la jeunesse, auteur de 90 livres dont Oh Boy ou encore Miss Charity. Une rencontre animée par Louise Touret. Entrée libre dans la limite des places disponibles à la BNF François Mitterrand, Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les députés britanniques votent pour un report du Brexit afin d'éviter une sortie de l'Union européenne sans accord. Pendant ce temps, les douaniers français s'inquiètent toujours de leur manque de moyens face à la hausse de travail à venir. Reportage dans ce journal. Vous entendrez aussi les premières conclusions d'Emmanuel Macron sur son grand débat national. Il le termine aujourd'hui en Corse, une visite à demi boudée par les élus sur place. Et puis, qui va représenter la France au Rwanda ce week-end, 25 ans après le début du génocide? Un député est envoyé par la présidence. Nous l'avons rencontré avant son départ. Les députés britanniques veulent éviter un no deal, une sortie de l'Union européenne sans accord. Ils ont donc voté hier pour demander à Theresa May de plaider un nouveau report du Brexit du 12 avril au 22 mai. De leur côté, le gouvernement britannique et l'opposition travailliste poursuivent aujourd'hui leurs discussions pour trouver un compromis. À Bruxelles, on prévient déjà, sans accord, l'Union européenne mettra en place immédiatement des contrôles douaniers et imposera des droits de douane aux frontières du Royaume-Uni. Difficile à faire pour le moment, voilà ce que répondent les douaniers français, en grève du zèle depuis un mois maintenant. Ils demandent plus de moyens matériels et humains. Le gouvernement à Paris leur propose 14 millions d'euros. Ce n'est pas assez, disent-ils. Alors la grève continue, Soizigbourg.
Et les premiers à en pâtir sont les voyageurs qui prennent l'Eurostar, comme Valérie qui habite à Londres et travaille en France. Chaque jour, elle doit faire 5 heures de queue pour prendre son train.
C'est l'enfer. C'est dur, quoi. Puis ça dure, quoi. Après, c'est une négociation, normalement. Donc, il faut que chacun fasse un pas à un moment donné parce qu'on est vraiment pris en otage.
Et pourtant, c'est pas gagné du tout. Les syndicats sont très remontés contre le gouvernement qui joue, selon eux, la carte du pourrissement du mouvement. Sur le terrain, les agents commencent vraiment à s'agacer. Ils dénoncent une sévère répression de la part de l'administration. Vincent Tomaso est le secrétaire général de l'UNSA Douane.
Les menaces de sanctions disciplinaires, envoyer la police pour les empêcher de contrôler, tout est mis en œuvre pour empêcher les agents de travailler, les agents d'exprimer finalement leur mécontentement.
Recrutement insuffisant, matériel non adapté, manque criant d'infrastructures. Pour Christophe Abadi, secrétaire national de la CFDT Douane, le gouvernement ne prend pas la mesure d'un possible Brexit sans accord.
On nous annonce qu'on est prêt pour le Brexit alors que c'est un mensonge. Nos locaux ne sont pas construits dans le Nord, dans les gares du Nord, tout les équipements ne sont pas prêts. On est très très loin de ce qu'annonce le ministre. Alors, heureusement que le Brexit a été retardé parce qu'on n'était déjà pas prêt à la date initiale. On ne sera pas prêt le 12 avril et je crains que même s'il y a un petit report, on ne sera pas toujours prêt, au moins sur les effectifs, puisque le temps de recruter un agent, c'est plus d'une année.
Les douaniers devraient mener d'autres actions dans les prochains jours, au moins jusqu'au 12 avril donc. Ils envisagent notamment de laisser leurs armes au vestiaire, un symbole. La dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était en 2002.
Et précisons que ni Bercy, ni la Direction Générale des Douanes n'ont souhaité répondre à nos sollicitations. Pendant que la sortie du Royaume-Uni déchire députés et professionnels, les candidats à un poste d'eurodéputé au sein de l'Union européenne vont s'affronter à moins de 2 mois des élections. En France, ce soir, le premier grand débat entre les têtes de liste est organisé par France Inter et France 2. Il sera diffusé à partir de 21h. 12 candidats vont s'affronter avec un temps de parole plutôt réduit, moins d'un quart d'heure chacun au total. Du débat, il y en aura en Corse ce jeudi où Emmanuel Macron doit se rendre dans le cadre de son grand débat national. Un déplacement boycotté par une partie des élus nationalistes et indépendantistes. Hier, c'est dans le calme que le chef de l'État a débattu en Bretagne. Devant 900 maires réunis à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, il s'est tourné vers la sortie de ce grand débat, semblant déjà poser les jalons d'une réponse à venir. Écoutez Emmanuel Macron.
J'ai plutôt perçu dans ces débats des grands absents et des manques. Le chômage est un absent qui m'a surpris. On n'a plus parlé de chômage. Je pense qu'on ne peut pas répondre à ce qu'on est en train de vivre si on ne remet pas la lutte contre le chômage au cœur de nos sujets. Le monde est absent trop souvent du débat. Et puis, les sujets d'insécurité, de terrorisme ont comme disparu. Certains sont même venus à dire ce qu'on a besoin d'une armée aussi grande, etc. Et donc, il ne faut pas oublier non plus le monde dans lequel nous sommes, ses incertitudes et ses dangers. À côté de ces absents, je vois un risque. C'est l'individualisme. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun, ce sera bien. Et vous trouverez toujours des gens qui diront « Moi, on n'a pas répondu à mon sujet dans le grand débat. » Peut-être, parce qu'à chaque instant, il ne faut jamais oublier que la réponse que l'État peut apporter, que les élus, que toutes celles et ceux qui constituent l'action publique peuvent apporter, c'est une réponse qui correspond à un projet national. Et donc, je veux que dans les réponses que nous aurons à formuler, tous ensemble, moi le premier, il y ait d'abord et avant tout chevillé un principe de responsabilité. J'ai ma part de responsabilité et je la prendrai, mais il doit y avoir une responsabilité de chacun dans ce qu'il est prêt à faire, y compris de chacun de nos citoyens.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Le chef de l'État avait saisi le Conseil constitutionnel sur la loi dite anti-casseurs, loi voulue par l'exécutif et rédigée à la base par la majorité de droite au Sénat. Votée le mois dernier, le texte avait essuyé de nombreuses critiques, notamment sur la possibilité pour les préfets d'interdire a priori de manifester. La décision des sages est donc attendue aujourd'hui. Et le Conseil constitutionnel sera-t-il saisi ou non par le Conseil d'État sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense dans les manifestations. Hier, la rapporteure publique au Conseil d'État ne s'est pas prononcée en faveur d'un transfert devant le Conseil constitutionnel. Une question prioritaire de constitutionnalité lui a été posée. Au micro d'Audrey Dumain, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, Patrice Spinozzi, veut toutefois rester optimiste.
Il est certain que le fait que le rapporteur public propose de ne pas transmettre la QPC n'est pas un signe favorable. Après, le Conseil d'État reste maître. Il peut toujours considérer qu'il y a là une question d'intérêt général, d'actualité, et on peut continuer à espérer que, s'agissant de cette question de l'usage du LBD qui reste très polémique, eh bien, le Conseil d'État fasse le choix raisonnable de demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l'encadrement suffisant de la loi pour l'usage de ces armes. Il est d'un intérêt général que le Conseil constitutionnel puisse statuer. Aujourd'hui, c'est une question politique, mais c'est aussi une question juridique. Pour nous, c'est contraire non seulement à la liberté de manifester, liberté fondamentale, mais aussi au droit à la dignité, le droit de ne pas subir des infirmités et donc des traitements inhumains et dégradants. En tout cas, ce sont les libertés fondamentales que nous avons soulevées dans le cadre de cette question prioritaire de constitutionnalité.
Violence policière, la parole des victimes. Voici le thème des discussions dans les matins de France Culture à partir de 7h40 tout à l'heure. Guillaume Erner recevra notamment Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, mort en 2016 suite à une interpellation. Elle est aujourd'hui militante au sein du comité Adama. Dans l'actualité cette semaine, nous nous penchons également sur le génocide rwandais 25 ans après. Le 7 avril 1994 allait commencer le génocide des Tutsis perpétués par les Hutus. Génocide qui allait faire plus de 800 000 morts en quelques semaines. Les commémorations auront lieu ce week-end dans le pays et la France envoie à Kigali un député, Hervé Berville, élu des Côtes d'Armor. Alors que la question du rôle de la France se pose toujours, Nathanaël Charbonnier.
Emmanuel Macron a choisi un symbole pour le représenter au Rwanda puisque le député Hervé Berville est d'origine rwandaise. Et que comme beaucoup de Tutsis, il a perdu une grande partie de sa famille lors du génocide. Hervé Berville, rwandais, oui, même s'il reconnaît avoir été épargné par l'horreur.
Moi j'ai une chance formidable, j'ai envie de vous dire, c'est que j'étais trop jeune pour me rappeler de tout ce que d'autres ont pu se rappeler.
Hervé Berville n'a pas connu le génocide mais connaît parfaitement les éléments de langage qu'il apportera à Kigali de la part du président français. Et s'il n'est pas prévu qu'il prenne officiellement la parole, il a conscience du message à faire passer.
La France est aux côtés du peuple rwandais, partage sa douleur et envoie un message d'amitié, de solidarité et de compassion.
Un député d'origine rwandaise pour les commémorations, ce n'est pas suffisant, estiment certains qui auraient aimé un plus haut degré de représentation. À défaut du président, au moins le Premier ministre ou celui des Affaires étrangères. L'important est ailleurs, explique Hervé Berville.
Vous savez, sur toute situation, il y a des esprits grincheux. Ce que je constate, c'est que depuis que le président de la République est aux responsabilités, il y a eu un réchauffement tangible de la relation qui s'est notamment concrétisé par l'envoi de cette invitation.
Un premier pas de la France, mais les Rwandais attendent maintenant d'autres gestes, comme la déclassification des archives sur le génocide promise, mais pas encore réalisée.
Carlos Ghosn a été arrêté une nouvelle fois au Japon cette nuit à son domicile. L'ancien PDG de Renault-Nissan est interrogé sur de nouveaux soupçons de malversation financière, un mois à peine après avoir été libéré sous caution. sous caution. Il juge cette arrestation révoltante et arbitraire. En Algérie, le départ d'Abdelaziz Bouteflika du pouvoir ne suffit pas aux manifestants. Ils veulent la fin de tout le système. Alors qu'hier se réunissait le Conseil constitutionnel pour constater la vacance définitive du pouvoir, le désormais ancien président algérien a lui écrit une lettre à la nation dans laquelle il demande pardon pour les erreurs qu'il a pu faire, Leïla Berrato.
C'est un ultime message, une lettre qu'adresse Abdelaziz Bouteflika aux Algériens au lendemain de sa démission. Comme toute chose a une fin, je vous fais mes adieux, même s'il n'est pas facile pour moi de vous exprimer toute la sincérité de mes sentiments, écrit le président. Il dit être fier de sa contribution et se félicite des progrès notables réalisés en 20 ans dans tous les domaines. Les années se sont succédées, tantôt maigres et tantôt prospères, donnant lieu à des actions qui ont été les miennes, certaines satisfaisantes et d'autres moins, écrit-il. Il s'excuse de tout manquement à l'encontre des Algériens, précisant que l'erreur est humaine. Il les remercie, les invite à maintenir du respect pour tous ceux qui ont combattu pour l'indépendance du pays et leur demande de rester unis. Il conclut « Je quitte la scène politique sans tristesse ni peur pour l'avenir de notre pays. »
Leïla Berrato à Alger pour France Culture. Ce jeudi en France s'annonce toujours frais, entre nuages et éclaircies. Des pluies sont prévues de la Bretagne à l'Aquitaine ainsi que sur les frontières de l'Est. Comptez 4 degrés ce matin à Strasbourg, 8 degrés à Rennes et Paris, 10 à 12 près de la Méditerranée. Il est 6h40, vous écoutez France Culture, bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous rejoignez pour le journal des idées. Jacques, lors du grand débat avec les intellectuels, Emmanuel Macron avait évoqué l'islam turc comme un vrai sujet. Cela pose notamment la question de la perméabilité de la démocratie européenne à l'influence de grandes puissances autoritaires.
Oui, comment l'islamo-nationalisme d'Erdogan s'implante en France? Claire Lauda a mené l'enquête pour Charlie Hebdo. Les relais d'influence de l'islamo-nationalisme au sein de la communauté turque sont nombreux. Auparavant, l'islam turc était républicain, laïcisé, observe Stéphane de Tapia, professeur à l'université de Strasbourg et spécialiste de la migration turque. Aujourd'hui, l'AKP a pris le contrôle de la quasi-totalité des mouvements islamistes. Mélange de défense du nationalisme turc d'Erdogan et d'un islam radical, l'islamo-nationalisme se manifeste par exemple dans le négationnisme sur le génocide arménien ou l'activisme contre la loi sur le voile à l'école. L'enseignement est d'ailleurs un des relais de son influence. À Strasbourg, où réside une importante communauté turque, il existe un lycée hors contrat avec l'éducation nationale qui donne des cours de religion tous les matins. Pour Bernard Godard, ancien monsieur islam au ministère de l'Intérieur, c'est une pépinière de l'AKP en France. Un projet aussi a été lancé pour créer une faculté de théologie musulmane à Strasbourg et former des imams turcs pour la France auxquels s'oppose le gouvernement. Les associations comme le COJEP, Conseil de jeunesse pluriculturelle, font également office de cheval de Troie d'Erdogan avec, pour celle-ci, deux mots d'ordre selon son président, le multiculturalisme et la lutte contre l'islamophobie. Les médias de la page Facebook de la Renaissance turque au site web rédaction en passant par la radio et télévision de Turquie sont très suivis. Erdogan y est présenté comme, je cite, le seul espoir de la communauté musulmane de la planète, le seul qui ose prendre la défense des musulmans persécutés. On peut se demander si les Turcs se sentent particulièrement victimes d'islamophobie sur notre sol, mais il est vrai qu'ils ont de plus en plus de mal avec la laïcité, confie un fonctionnaire du renseignement territorial. C'est sans doute aussi l'un des effets de la propagande du pouvoir turc. Le site Média Turc critique ouvertement la démocratie française avec des dossiers à l'intitulé étrange. La France est l'Eldorado des pédophiles. Le darwinisme est-il une science ou encore antisémitisme, faux débat. Le Monde entame une série d'articles sur les réseaux et l'influence à l'étranger de la Russie de Poutine. Isabelle Mandreau examine les liens avec l'extrême droite européenne. Sous couvert de préserver l'Europe chrétienne, une nébuleuse d'officine s'emploie à déstabiliser la construction politique de l'Union en appuyant les partis les plus hostiles et à faire en sorte par tous les moyens de lever les sanctions européennes imposées à la suite de l'annexion de la Crimée et du conflit entretenu en Ukraine, pays souverain, frontalier de l'Europe. Alain Soral avait été invité à assister à Moscou en juin 2016 à un forum sur les médias entre entre guillemets, non alignés, organisés par Rossiya Segodnia, la principale agence russe pro-pouvoir, sur le thème « Nouvelle ère du journalisme, l'adieu au mainstream ». Vladimir Jirinovski, fondateur du LDPR, le Parti libéral-démocrate de Russie, traduisait « ultranationaliste à tendance fasciste », connu pour ses liens passés avec le dictateur irakien Saddam Hussein, organise des colloques avec des partis patriotiques de différents horizons. Les circuits financiers de soutien aux amis passeraient par lui. Organisateur en juin 2018 d'un congrès mondial des partis de la paix, il avait rassemblé aussi bien des groupes néo-nazis russes ou scandinaves que l'ancien député français Thierry Mariani, alors encore membre des Républicains avant qu'il ne rejoigne Marine Le Pen pour les prochaines élections européennes. Et comme on sait, la Russie de Poutine ne se contente pas d'influence, elle paie. La Chine n'est pas en reste. Dans un livre qui vient de paraître, « La France made in China », Pierre Thyssen et Régis Soubrouillard décrivent en détail la stratégie offensive de la Chine en Europe, comme le résume Romain Gubert sur le site de l'hebdomadaire Le Point. Pour défendre son image, l'Empire du Milieu dispose de nombreux agents d'influence. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Jean-Pierre Raffarin. Depuis qu'il ne fait plus de politique, l'ex-premier ministre écrit des livres qui ne sont publiés qu'en Chine et enseigne dans une école de commerce chinoise. Dominique de Villepin, qui possède deux sociétés chinoises à Hong Kong, est un ardent défenseur du projet de route de la soie lors de ses interventions publiques. Sur la stratégie chinoise consistant à aspirer les technologies européennes, les auteurs soulignent la faiblesse de l'Europe face au rouleau compresseur chinois. Et il en va de même avec les idéologies populistes anti-européennes. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Et au sommaire aujourd'hui, donc le Mali et la boucle du Niger.
C'est ça, et la violence toujours au centre du Mali. Après la mort mardi d'un médecin militaire français dans l'explosion de son véhicule, l'armée française venait de s'y installer pour tenter d'endiguer l'instabilité croissante dans la région et garder peut-être un œil sur les pays alentours, Tchad et Burkina. Alors le centre bourbier ou levier sur la sécurité régionale, on en parle avec vous, Nicolas Desgrais, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes doctorant à la Brussels School of International Studies, University of Kent. Vous êtes spécialiste du Sahel. Alors, il y a beaucoup d'interrogations en ce moment à l'ONU sur les dispositifs militaires en place. Ce qu'on voit, c'est qu'en début de semaine, l'armée française s'installe dans cette région de la boucle du Niger, du Gourma, centre-sud du Mali, celle où est intervenu le massacre de 157 Peuls le 23 mars. Le fait qu'elle s'y installe en ce moment et y opère depuis quelques mois, c'est complètement inédit quand même.
Oui, alors ça s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement du dispositif Barkhane au Mali. Au cours des derniers mois, la force française a agi surtout sur l'axe entre Gao, Onsongo et ensuite Menaka, donc plutôt à la frontière avec le Niger, et on voit un redéploiement après avoir affaibli justement l'État islamique au Grand Sahara d'Abou Walid al-Sahraoui, un redéplacement justement vers cette zone du Gourma où il y a encore des Katibas qui sont actifs dans la zone.
Et alors justement, pour y faire quoi dans ce sanctuaire djihadiste, hein, comme le disait le général Blachon qui commande la force sur place, il y a l'autre général commandant en chef des forces armées françaises, Lecointre, qui parlait d'une stratégie un peu gagnante dans le Liptako, la région plus à l'est, qu'il s'agirait de répliquer ici dans le Gourma. Il disait à Menaka, dans l'est, il y a un véritable retour des habitants, la réinstallation de l'État, le autour des forces maliennes. C'est ce qui est visé par l'armée française en ce moment, là ?
Oui, effectivement, l'armée française, son objectif premier n'est pas d'éradiquer toute menace que posent les groupes armés djihadistes, mais bien de permettre un affaiblissement de ces groupes pour que les armées nationales puissent être en mesure de gérer eux-mêmes cette situation. Donc ils ont estimé qu'effectivement, après 18 mois de présence du côté de Menaka, les forces en présence étaient capables de gérer cette menace. Et effectivement, c'est vrai qu'on a vu un affaiblissement de l'EJS avec Abou Walid al-Sahraoui qui aurait été...
Donc l'État islamique au Grand Sahara,
EJS. Exactement. Ouais. Qui aurait été blessé et qui aurait été forcé de quitter la zone. On a aussi pas mal de membres de ce leadership, notamment arabes qui se sont rendus à Tamanrasset pour déposer les armes dans le cadre de la charte de réconciliation nationale qui est en vigueur en Algérie. Donc on a eu un certain affaiblissement du groupe. Après, le groupe est toujours actif d'une certaine manière, notamment suite à l'attaque d'Aqaba contre les forces françaises début mars, où on a bien vu qu'ils étaient capables encore de mener des actions complexes avec des véhicules piégés et puis des attaques directes. Donc le GIS existe toujours et l'idée est quand même d'avoir, après observer une certaine affaiblissement, de se redéployer dans d'autres zones.
Oui, alors je ne sais pas si l'attaque a été revendiquée, celle à l'explosif improvisé contre le véhicule du capitaine français ce mardi, mais c'est vrai qu'il y a une diversité des groupes dans cette région et puis un certain nombre de violences qu'on dit intercommunautaires. Est-ce que ça vient pas tout compliqué et le travail de l'armée française aussi dans la région?
Effectivement, ces violences intercommunautaires qui sont pas nouvelles, hein. Le massacre de Gossagou a vraiment marqué l'opinion au fer rouge et à juste titre parce que les images sont absolument terribles. Mais il faut se rappeler aussi du massacre de Yergou qui a eu lieu au Burkina le 1er janvier où on a eu entre 50 et 70 morts. Où là aussi, suite à l'assassinat d'un chef de village par des groupes armés non identifiés, on a eu une vague de représailles et de vengeance d'une milice qu'on appelle des Kogogo vis-à-vis de la communauté Peul, et on se rend compte que cette communauté Peul se retrouve au milieu d'amalgames de plus en plus meurtrier entre le Mali et le Burkina, et c'est vrai que ça complique beaucoup l'action des forces armées, que ce soit celle de la MINUSMA ou Barkhane, mais également des armées nationales qui sont bien souvent incapables d'arrêter ces vagues de représailles qui peuvent exister dans certaines régions.
Oui, avec d'ailleurs encore un massacre, nous dit l'AFP, entre dimanche et mardi dans la région du Nord Burkina, là, à Arbindab. C'est ça, voilà. Voilà.
Entre 62 morts et 9 otages, apparemment.
Exactement. Entre et une trentaine de la part de djihadistes, une trentaine pour les violences intercommunautaires. Là-dessus, juste un mot encore sur l'action militaire de la France au Mali. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il était question de la part du service de presse du ministère de la Défense d'une opération qui sert à limiter les mouvements principalement des djihadistes, des opérations de ratissage pour trouver les armes. C'est un peu ça l'idée, en fait, c'est endiguer la menace finalement.
Oui, l'idée de l'ouverture de cette emprise à Gossi, c'est aussi de pouvoir permettre des actions davantage dans la durée dans cette zone, c'est-à-dire de ne pas venir uniquement de façon très ponctuelle suite à du renseignement, de la présence d'un leader djihadiste ou d'un groupe constitué, mais de pouvoir rayonner, de faire de la présence et ainsi déstabiliser justement les flux logistiques des groupes djihadistes, parfois même entre eux, donc de saper un petit peu leur capacité à déplacer des armes, à déplacer aussi les capacités de d'IED, etc. Oui. Donc voilà, oui, c'est vraiment d'essayer de couper entre guillemets les flux logistiques.
Bon, et pour ce qui est de la stratégie de levier sur la région, ça c'était le général Blachon qui en parlait, qui disait à l'AFP, on est ici dans la poignée de l'éventail, donc qui permet de surveiller notamment le Burkina. Le Burkina lui-même très touché en ce moment. On en parle moins, mais c'est vrai qu'il y a un bilan qui est énorme depuis quelques temps. 300 morts, je crois, depuis 2015, 140 000 déplacés internes, et puis un nombre croissant de tués, là, vous l'avez souligné quand même, dans le Nord.
Oui, le Burkina fait face vraiment à une menace inédite dans son histoire. Hein. On se rend compte bien qu'il y a des parties entières du territoire où les forces de défense et de sécurité sont à la peine, où l'autorité d'État recule avec le recul d'une part des autorités locales, mais aussi des enseignants, enfin des services de l'État. Donc c'est vraiment un problème nouveau auquel le Burkina essaie de faire face. Dans ce cadre, justement, la coopération avec la France tant évolué au cours des derniers mois. On a vu la signature d'un accord intergouvernemental qui va permettre justement une coopération militaire plus poussée. Barkhane est aussi en train d'ouvrir une emprise du côté du nord du Burkina. Donc l'idée est d'essayer d'avoir des emprises, un maillage territorial de Barkhane pour potentiellement pouvoir agir plus rapidement avec plus de flexibilité. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et voilà, tout laisse à penser une augmentation justement des opérations de Barkhane au Burkina.
Et le Burkina qui participe aussi à ce G5 Sahel, hein, force des multinationales de 5 pays lancée en 2017, enfin mise en place en 2017. Il y avait un chercheur de du Timbuktu Institute de Dakar qui disait que le Burkina là se présentait un peu comme le dernier verrou avant que les djihadistes n'atteignent l'Afrique côtière. C'est comme ça qu'il interprenait l'intensification des actions dans le nord. Est-ce que vous seriez d'accord? C'est vrai qu'il y a eu quelques attaques entre le Bénin, le Togo également.
Oui, c'est vrai qu'on se rend compte que justement les groupes armés djihadistes ont une stratégie, hein, et s'adaptent justement aux mécanismes que mettent en place leurs ennemis, à savoir les États sahéliens et les forces françaises et internationales. Donc ils ont tendance à essayer d'ouvrir de nouveaux fronts pour justement pousser leurs adversaires à disperser leurs efforts et ne pas être en mesure de les concentrer à un endroit où ils seraient. Donc je pense que cette ouverture d'un nouveau front, notamment dans l'est du Burkina, voire avec les frontières des pays côtiers, ça s'inscrit complètement dans cette stratégie qui est de déstabiliser les mécanismes que ces États du G5 tentent à mettre en place. Effectivement, on est obligé maintenant pour les États sahéliens d'avoir des coopérations qui dépassent le cadre du G5. Notamment dans le cadre du Conseil de l'Entente, où ils ont créé une entente de renseignement, c'est-à-dire du partage d'informations, avec les pays côtiers pour pouvoir essayer de limiter cette menace.
Oui. Et alors, avec quelles implications, dernière question, pour le G5 Sahel, là, il y a eu justement une visite du Conseil de sécurité de l'ONU qui a, je crois, décidé de autoriser la MINUSMA, la force de l'ONU de la paix, donc à appuyer logistiquement ce G5 Sahel, toujours un peu faible en moyens et en financement.
Alors c'est vrai que le soutien de la MINUSMA était assez limité dans la mesure où la MINUSMA peut exercer uniquement sur le territoire malien. Donc elle s'occupait de faire de la livraison d'eau, de vivres et puis aussi de la construction de camps, mais uniquement sur le territoire malien, ce qui pouvait être utilisé que pour les bataillons maliens de cette force conjointe. Donc on tend vers un soutien onusien un peu plus large qui pourrait justement permettre de soutenir davantage le Burkina. Maintenant, c'est vrai que cette force conjointe, il faut la prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire que c'est une tentative de rapprocher les armées sahéliennes de leurs frontières pour justement éviter de laisser des espaces vides. Mais voilà, il faut être très réaliste sur cette force. Cette force est constituée que de 5000 hommes sur 3 fuseaux et c'est très difficile pour elle d'être la solution à toute la solution sécuritaire du Sahel.
Eh ben, ce sera à suivre ainsi que l'avenir de la MINUSMA en juin au Conseil de sécurité. Merci beaucoup ce matin pour vos explications, Nicolas Desgrais. Je le rappelle.
Merci à vous.
Merci, doctorant à la Brussels School of International Studies de l'University of Kent. Merci.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent En lisant, en écrivant, une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Mardi 9 avril à 18h30, retrouvez Mario de Muraille, grande figure de la littérature pour la jeunesse, auteur de 90 livres dont Oh Boy ou encore Miss Charity. Une rencontre animée par Louise Touré. Entrée libre dans la limite des places disponibles à la BNF François Mitterrand, Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Youri Favorine interprète Franz Liszt à l'auditorium de Radio France. Le 7 avril à 16h, le pianiste russe, lauréat du prestigieux concours Reine-Elisabeth, interprète Les années de pèlerinage de Liszt. Une recherche de l'absolu dans l'atmosphère intime de l'auditorium de Radio France. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
6h57 sur France Culture, l'heure des matins, avec vous Guillaume Erner,
bonjour. Mais oui, Xavier Martinet, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Et cette nouvelle, le coiffeur Jean-Louis David est mort hier à l'âge de 85 ans. Et
il y aurait 1000 histoires à raconter sur lui, 1000 histoires comme les 1000 salons de coiffure ouverts à son nom, car c'est lui qui a importé en Europe le principe de la franchise appliquée aux salons de coiffure. 1000 histoires sur la manière dont il a coiffé, par exemple, Kim Novak. Mais moi j'aimerais saluer cet homme en évoquant le rôle des coiffeurs en sciences sociales. Oui, le saviez-vous, les coiffeurs sont essentiels en sciences humaines, en sociologie du racisme par exemple, car la sociologie du racisme peut naître de cette vieille blague. Sur un magasin, on trouve une pancarte sur laquelle il est écrit « Interdit aux juifs et aux coiffeurs ». Et alors, un passant se demande pourquoi aux coiffeurs. Se demander pourquoi le racisme est dirigé contre certaines minorités, c'est déjà se confronter à un phénomène social. Mais les coiffeurs, Xavier, ont aussi un rôle essentiel en économie. Pour le savoir, il faut se souvenir de Jean-Louis David, disparu hier, qui avait ouvert des franchises, qui signifie que la coupe de cheveux peut se standardiser, se normaliser, être effectuée de la même façon à Brest comme à Menton, autrement dit dans la même durée. Et justement, sur le plan économique, cela veut dire beaucoup, cela veut dire que la coiffure est l'une des rares activités humaines inaccessibles aux gains de productivité, comme l'expliquait l'économiste Jean Fourastier. Une fois que vous avez un peu rationalisé l'activité des coupes singulières, il n'est pas possible de bouleverser le temps nécessaire pour accomplir une coupe. C'est-à-dire que j'utilise des ciseaux ou une tondeuse pour vous coiffer, Xavier. Fondamentalement, il n'y aura pas de gain de temps entre votre coupe effectuée en 1867 et en 2019. Il n'y en aura pas. Et c'est la raison pour laquelle un économiste, donc, a considéré que le prix de la coupe de cheveux était l'étalon le plus fiable pour mesurer l'évolution de la productivité au travers des âges. Et c'est ainsi que si l'on retient, par exemple, le prix d'une coupe, donc comme étalon, on réalise que le prix d'une consultation chez le médecin a considérablement baissé, passant de 83 euros en 1900 à 23 euros aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est un rapport, mais dans le même temps, le prix d'un cercueil en chêne a été pratiquement divisé par deux. Allez, bonne journée en nous souhaitant d'en acheter un le plus tard possible.